Voilà, nous poursuivons le thème de la sainteté du croyant, mais avec le titre, on pourrait dire « Vous serez saints car je suis saint ». Et qui c'est qui a dit ça? C'est Dieu qui l'a dit. Où est-ce qu'on trouve cela écrit? Dans la Bible, bien sûr, dans la Bible. Hein? Je ne sais pas si quelqu'un a dit dans la Bible, oui, dans la Bible. Mais surtout dans quel livre? Le Lévitique. Alors, plusieurs fois dans le livre du Lévitique, j'ai relevé quatre fois. On avait noté ça, hein? Lévitique 11. Donc, si vous ne l'avez pas noté, notez-le, parce que vous avez vos carnets de notes et vous êtes organisé. Lévitique 11, vous pouvez relire à la maison, 44-45. Lévitique 19, verset 2. Lévitique 20-26. Lévitique 21-8. Et puis, on le trouve aussi dans le Nouveau Testament. Où? 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 16. Et si vous n'aviez pas trouvé ça, bon, ça aurait été grave, parce que dimanche, on l'a lu au moins. Alors, on avait vu l'importance de la sainteté, hein, pratique du croyant, sans développer tous les aspects, mais comment c'était important dans la Bible. La Bible exhortait à cette sainteté. On avait considéré la dernière fois un aspect de la sainteté de Dieu, puisque Dieu dit « vous serez saints car je suis saint ». Donc, on alterne un petit peu, hein, le croyant, l'homme et puis Dieu. Donc, on avait vu Dieu la dernière fois. Et à travers l'histoire de Nadab et Abihu, hein, comment Moïse a dit à Aaron, qui a perdu ses deux fils aînés, la première fois où ils officiaient, et il leur a dit, c'est ça que Dieu disait quand il parlait en disant « Je veux être sanctifié par ceux qui s'approchent de moi ». Donc, être saint, c'est aussi sanctifier Dieu. Et aujourd'hui, on veut considérer un autre aspect, mais je veux commencer par une question. Qu'est-ce qui vient à l'esprit quand on parle de la sainteté pour l'homme, pour un homme d'être saint? Qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit? De manière générale, hein, je ne parle pas forcément en tant que chrétien. Pour un homme, hein, on dit, oh, cet homme est un homme saint. Qu'est-ce qui vient? Ça? Sa pureté, d'accord? Pureté dans quel domaine? N'importe quel domaine, d'accord? Ça? Sa piété, le fait qu'il soit pieux, oui, d'accord? D'autres choses? Le fait qu'il ne pêche pas, tu veux dire? Au moins qu'il fasse ses efforts pour ne pas pêcher, parce que sans pêcher, c'est difficile. Sinon, il faut que je descende de là tout de suite, oui. Mais c'est vrai, hein. Il cherche à ne pas pêcher, hein. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Il est irréprochable, c'est-à-dire il est droit, ce qu'il dit, oui. Un homme de Dieu. Bon, je parle même pour les hommes du monde aussi, hein, mais c'est vrai, oui, on peut dire un homme de Dieu, oui. Les ermites. Tu penses, ça te fait penser aux ermites, les gens qui s'isolent pour, c'est ça? Oui, peut-être, hein. Ouais. Bon, généralement, dans tout ce que vous avez donné, bon, c'est bien ce que vous avez donné comme exemple, mais je pense qu'on peut quand même avec les exemples que vous avez donnés, montrer que quand on pense à la sainteté, on pense à ce qui est assez extérieur, non? Quand même, hein? On pense à la pureté, dans différents domaines, même la piété, l'expression de la piété, le fait de ne pas pécher, de ne pas faire des choses, c'est des actions mauvaises, ne pas commettre des actions mauvaises. En fait, on parle peut-être beaucoup à ce qui touche le corps, un peu, hein? Le corps, je veux dire, dans ses actions, hein? Oui, et ses interactions, hein? La parole, par exemple, le fait qu'on dise des choses qui sont pas gentil aux autres ou non. Donc, on pense un petit peu à ces choses-là. Hein. On mesure souvent la sainteté, ce que l'on ne fait pas. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, ou je fais, ou à ce que l'on fait, parfois. Hein. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne trompe pas ma femme. Voilà, des gens qui peuvent dire qu'ils font comme ça, ils mènent une vie relativement saine. Ici. Et on a tendance à mettre l'accent beaucoup sur l'extérieur, quand on parle de la sainteté. Un peu comme les pharisiens. Les pharisiens mettaient beaucoup l'accent sur l'extérieur. Et vous vous rappelez ce que Jésus leur reprochait dans Luc 11, par exemple, versets 39 à 40, je vous lis. Il dit, mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donc, il parle ici en disant que, il montre ici cette tendance qu'avaient les pharisiens à faire des efforts pour l'extérieur, mais en oubliant l'intérieur. Un peu plus loin, ailleurs, il dit, par exemple, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc Jésus ne dit pas ici qu'il ne faut pas pratiquer ces choses que faisaient les pharisiens, mais il souligne que la corruption chez eux qui consistait à se donner une bonne conscience en développant une piété extérieure. Je donne la dîme. Rappelez-vous la prière du pharisien, hein. Il disait pareil. Parfois on dit, voilà, je me lève tôt pour étudier la parole de Dieu, je fais ceci, je ne vais pas dans tel lieu. Alors on insiste sur ces aspects extérieurs, et Jésus dit, oui, c'est bien, mais il ne faut pas oublier ce qui doit être à l'intérieur aussi, qui doit les motivations intérieures. Alors on va considérer un petit peu cet aspect un peu plus intérieur ce soir, hein, de la sainteté. Et on va lire déjà un texte qu'on a lu dimanche, donc c'est dans 1 Pierre, puisqu'il est question dans ce passage que vous serez saints car je suis saint, mais 1 Pierre chapitre 1, je vous demande de prendre 1 Pierre chapitre 1, on va lire du verset 13 au verset 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 13 à 16. Nous lisons, quelqu'un veut lire ça, 1 Pierre chapitre 1, celui qui l'a lit. 1 Pierre chapitre 1, 13 à 16.
C'est pourquoi craignez les rats de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint.
Très bien, merci beaucoup. Si vous lisez les versets 14 et 15, à quel verset ça vous fait penser? Gardez bien les versets 14 et 15, dans sa structure. Quel autre verset ça vous fait penser? Romains chapitre 12, verset 2. D'accord? Pratiquement les mêmes mots, hein? Romains chapitre, alors, quelqu'un a Romains 12, verset 2? Quelqu'un peut nous lire Romains 12, verset 2? Alors, on va prendre ces deux versets, et puis on va les comparer, dans un premier temps. Romains chapitre 12, verset 2. Quelqu'un a ça?
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Voilà, merci. Donc, on va prendre les deux. Qu'est-ce qu'on trouve dans, qui est commun dans ces deux versets? Vraiment, il dit, ne vous conformez pas. On trouve ça dans 1 Pierre, verset 14, et puis dans Romains, chapitre 12, verset 2. Ensuite, à quoi il ne faut pas se conformer? Entre quoi et quoi on fait le parallèle ici? Il ne faut pas se conformer. Dans Pierre, à quoi? Aux convoitises que vous aviez, il dit, autrefois. Aux convoitises d'autrefois. Et dans Romains, il ne faut pas se conformer à quoi? Au siècle présent. Ensuite, dans Romains, il dit, mais soyez, quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et dans Pierre, il dit, soyez, quoi? Ah, c'est pas écrit tout de suite comme ça, mais soyez saints. C'est ce qu'il dit dans Pierre, hein. Si vous avez fait attention, il dit, regardez bien le verset de Pierre, verset 15, il dit, mais, et puis virgule, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints. Mais vous, soyez saints. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, mais soyez saints. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors je me dis que si ces deux versets peuvent nous aider à comprendre ce que ça veut dire que d'être saint, ou ce que ça veut dire que d'être renouvelé par l'intelligence, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. En comparant un petit peu les deux choses. Alors les deux mots ici hein, que l'on trouve ne vous conformez pas se trouve, enfin le verbe plutôt se trouve que deux fois dans la Bible. Là, dans 1 Pierre et dans Romains, le terme conformer que l'on trouve ici. Ne vous conformez pas. Donc il y a Pierre et Paul qui disent cela. Alors qu'est-ce que ça veut dire se conformer? Pour vous c'est quoi? Conformer c'est quoi? Se conformer. Ressembler, se conformer c'est ressembler, d'accord? D'autres? Suivre, oui. Voilà, suivre les autres. Donc c'est ça un peu. Alors je lis dans la Bible Semeur dit ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Donc c'est un petit peu ce que vous avez dit, hein, se ressembler, suivre, se laisser façonner, c'est-à-dire adopter, épouser une forme et une manière d'agir. C'est ce que ça veut dire. Donc se laisser, parfois on dit se laisser couler dans le moule. Alors Pierre et Paul disent voilà, on ne doit pas se conformer. On doit faire attention à ne pas épouser une certaine forme. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas épouser comme forme? Pour Paul, c'est le siècle présent. Et pour Pierre, c'est les convoitises. Alors moi, j'ai une question. Puisqu'on fait le parallèle, est-ce que le siècle présent et convoitise expriment une même pensée? Ou est-ce que ce sont des choses différentes? Si vous dites que ce sont des choses différentes, il faut le démontrer. Si vous dites que c'est la même chose, il faut le démontrer. Non, j'exagère. Mais comme vous lisez comme ça, est-ce que c'est la même chose? C'est quoi le siècle présent? On peut regarder ce que c'est que le siècle présent. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle les convoitises? Hein? Est-ce que c'est quand on parle du siècle présent? Qu'est-ce qu'on entend quand on parle du siècle présent? Pour vous, ça évoque quoi le siècle présent? En général, ça évoque quoi? La Bible parle beaucoup du siècle présent, le présent siècle mauvais. Des masmars abandonnés par amour pour le siècle présent. On a des versets comme cela. Hein. Donc ça évoque, oui, le monde et son système de pensée ou de valeur, d'accord. Donc le monde à l'époque de Paul, on pourrait dire aussi le monde à notre époque. Voilà. Hein. Galates, par exemple, dit que Christ s'est livré, s'est donné lui-même pour nous... pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. On comprend, nous arracher du monde et de toute sa manière de vivre, sa manière de penser. D'accord, ça c'est pour une chose. Pour les convoitises, c'est quoi les convoitises? Comment vous définissez les convoitises? C'est plus intérieur, d'accord? C'est la vue, oui, ce qu'on désire, etc. Peut-être que c'est quelque chose qui est plus spécifique, qu'on peut plus qualifier, convoiter quelque chose qui appartient à l'autre, le fait de désirer ce qui appartient à l'autre. Hein. On peut le voir comme cela, convoiter le bœuf du voisin ou la voiture du voisin ou la situation ou la richesse. Hein. Donc c'est plus quelque chose qui ressemble à un désir fort du cœur, on pourrait dire, comme cela. Donc, quelque part, on a... En première approche, l'impression que c'est différent un peu. Donc Paul parle du siècle présent, alors que Pierre parle de quelque chose qui est plus un désir. Mais il y a un auteur qui a dit ceci. Il dit, on avait étudié, il s'appelle John Owen. Il dit, un puritain, 17e siècle, il dit toute convoitise est une habitude ou une disposition dépravée qui incline continuellement nos cœurs à faire le mal. Donc c'est vrai que c'est intérieurement, quelqu'un a dit, cette disposition qui nous fait tendre vers le mal. Alors, ma question c'était, est-ce que c'est la même chose? Si on considère Marc, okay, on peut prendre Marc chapitre 4 versets 18 et 19, on est en train de se poser la question, est-ce que c'est la même pensée? Est-ce qu'on peut englober le siècle présent et les convoitises dans une même pensée? Considérons Marc chapitre 4 versets 18 et 19. Quelqu'un veut lire ça? Marc chapitre 4, versets 18 et 19. Ça, c'est dans la parabole sur les terrains que Jésus a donné, les quatre terrains. Hein. Donc, celui qui l'a, le premier qui a Marc chapitre 4, versets 18 et 19, lit. Ça va nous faire. Voilà. Ici, on a presque les deux expressions ensemble. On est d'accord? On a ici les soucis du siècle présent, et puis la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. Donc, quelque part, soucis du siècle et convoitises sont mis presque en, sous le même pied d'égalité, parce qu'il dit l'invasion des autres convoitises. Quelles sont les premières convoitises? Soucis du siècle, séduction des richesses, d'accord? Et puis, il y en a d'autres. D'accord? Donc, il, comme s'il dit que les, le souci du siècle est une, est, c'est une convoitise. Hein, on pourrait dire. Bon, on peut aller un peu plus loin. 2 Pierre 1, verset 4. Si vous regardez, on était dans 1 Pierre. 2 Pierre 1, verset 4, ici. 2 Pierre 1, verset 4. Donc, la, 2 Pierre, chapitre 1, je sais pas, bon verset, verset 4, verset 3, je vais lire, il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Verset 4. « Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption » qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, il dit que ce qui existe dans le monde existe par la convoitise. Donc, c'est comme si la convoitise guide ce qui existe dans le monde. Ils fuirent la corruption qui est dans le monde et cette corruption, elle est par la convoitise. Un petit peu. Ici. Donc, on pourrait dire que le monde, la corruption du monde, de ce siècle présent, puisque le monde siècle présent, c'est la même pensée, est régi par la convoitise. Et puis, on va encore lire un dernier verset dans 1 Jean 2, 16. Là, c'est l'apôtre Jean qui parle, et vous connaissez bien ce verset. Je vais vous le lire, il dit, « Car tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde. » Et qu'est-ce qui est dans le monde? Il dit, « La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. » Après, il ajoute aussi l'orgueil de la vie. Mais globalement, on pourrait dire qu'il caractérise tout ce qui est dans le monde par quoi? Par la convoitise. D'accord? Donc, le siècle présent et la convoitise, quelque part, c'est la même pensée. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le siècle est dirigé par la convoitise. D'accord? Quand on aime le siècle présent, c'est que l'on est plein de convoitise. Donc, quand Pierre dit d'un côté, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez, et quand l'apôtre Paul dit de l'autre côté, ne vous conformez pas au siècle présent, ils disent la même chose, en fait, hein. Parce que on peut voir l'un et l'autre, je crois que c'est une bonne correspondance que l'on trouve ici. Donc, le non, premièrement, faut pas se conformer. C'est ce qu'ils disent, tous les deux. Et que ce à quoi on ne doit pas se conformer, c'est la convoitise. Et puis après, ils disent tous les deux comment il ne faut pas se conformer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être conformiste, pour être un non-conformiste, pour ne pas se laisser attirer dans cette convoitise ou par le siècle présent, pour ne pas se conformer au siècle présent. On va regarder. Donc Pierre dit, mais soyez, on avait vu, hein, soyez. Pierre dit « Soyez saints », en gros, et Paul dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». On pourrait presque se poser la même question, est-ce que c'est donc la sainteté et le renouvellement de l'intelligence, c'est la même pensée. Les deux choses sont aussi équivalentes, On peut noter, je pense, que Paul, tout comme Pierre, d'ailleurs, ici, parle de sainteté. Dans Romains 12, l'apôtre Paul parle de la sainteté. Si vous regardez Romains 12, verset 1, quelqu'un veut lire Romains 12, verset 1, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, voilà, un autre mot, et agréable à Dieu. Donc, il est en train de parler le fait d'offrir un sacrifice saint, quelque chose. Son thème, c'est la sens. Il évoque aussi la sainteté dans le verset qu'on est en train de lire, au verset suivant, verset 1 et 2, d'accord? Donc, Paul, on va dire, comme Pierre, parle de sainteté. C'est évident pour Pierre parce qu'il dit, soyez saints, etc. Mais aussi, on peut dire que Pierre, comme Paul, parle d'intelligence. Parce que Paul dit, écoutez bien, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment ne pas se conformer au siècle présent? Il faut se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Pierre dit, comment ne pas se conformer aux convoitises au siècle présent? Il faut faire quoi? Être saint. Et donc, on est en train de dire, mais est-ce que ça pourrait nous dire que la sainteté, quelque part, consiste à se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence? Je dis oui, parce que Paul parle aussi de sainteté dans le passage qui dans Romains 12, et Pierre parle aussi d'intelligence. Regardez le verset 13, qu'est-ce qu'il dit Pierre? C'est pourquoi, 1 Pierre 1:13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Et l'entendement ici peut être, et après il continue et il développe, hein, et l'entendement ici peut être traduit par intelligence, par le cœur, par la faculté mentale, par l'esprit. Je vous lis par exemple deux traductions différentes de ce verset. Donc dans la seconde 21, donc 1 Pierre 1 verset 13 dit, c'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. D'accord? Quand il dit saignez les reins de votre entendement, il dit tenez votre intelligence en éveil. Et puis il continue. Donc il est en train de parler de l'intelligence et de l'esprit ici. D'accord? Et il arrive jusqu'à soyez saints. Et puis, dans la version du semeur, c'est traduit comme ça, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil. Donc, le mot entendement, ça veut dire intelligence, ça veut dire esprit. Donc, Pierre et Paul sont en train de dire exactement la même chose. Ce qui nous permet de conclure, de dire que la sainteté, en fait, ici, consiste à fuir la convoitise qui est présente dans le siècle présent en se laissant transformer par le renouvellement de l'intelligence. Ma question du début était, tout à l'heure vous vous rappelez, qu'est-ce qui vient à l'esprit en premier quand on parle de sainteté pour l'homme? On a dit qu'on pense souvent au corps. Eh bien, ce qui devrait venir en premier à l'esprit, en fait, c'est l'esprit. La sainteté de l'esprit. D'accord? C'est le titre de notre étude. La sainteté de l'esprit. Quand Pierre dit ici, saignez les reins de votre entendement. Je dis 1 Pierre 1 verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au siècle. Ne vous conformez pas, convoitise que vous aviez quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Et le « mais » ici qui est utilisé montre que la manière avec laquelle il faut ne pas se conformer aux convoitises, c'est ce qu'il dit derrière, il faut être saint. Le « mais » pour Paul, ici aussi, la manière avec laquelle il ne faut pas se conformer au siècle présent, c'est de se laisser renouveler par l'intelligence du Saint-Esprit. Alors, on a un texte dans Éphésiens qu'on a lu, que vous avez lu tout à l'heure, qui résume bien cela, hein, et qui rassemble tous les mots, là, ici, la sainteté, la convoitise, l'esprit renouvelé, ensemble, et qui nous permet de comprendre un petit peu. C'est un beau résumé que l'apôtre Paul fait. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 20. Regardez Éphésiens chapitre 4, verset 20. Et soulignons bien comment c'est écrit ici. Il dit, mais vous, Éphésiens 4, 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il parle aux croyants. Si du moins vous l'avez entendu Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous, dépouillés, eut égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt, comment il se corrompt le vieil homme? Par les convoitises trompeuses. Et comment il décrit le vieil homme? Et à être donc renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. On se dépouille du vieil homme qui se corrompt en étant renouvelé dans l'esprit, même expression que Paul ici, en Romains 12, hein, l'esprit de votre intelligence, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. D'accord? Donc on voit ici ces choses mises ensemble, hein, l'esprit qui est renouvelé, d'accord? La sainteté consiste à se laisser transformer, à laisser son esprit renouveler. Donc la sainteté doit toucher en premier lieu notre esprit et notre intelligence. Se dépouiller de la convoitise demande un esprit remodelé par la vérité. Parce qu'il dit que la vérité produit la sainteté. Si vous lisez dans Malachie, par exemple, chapitre 12, on a un exemple où vous rappelez-vous, les enfants d'Israël avaient abandonné leur épouse qu'ils ont trouvée trop vieille pour en épouser de plus jeune. Il y avait une espèce de divorce presque collectif, je ne sais pas comment il faudrait dire ça. Et c'est là où Dieu dit, je hais la répudiation, je hais le divorce. Et puis, Dieu dit quelque chose au peuple par le prophète Malachie. Malachie 2,15, il dit, prenez garde. À quoi? En votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Où est-ce qu'il faut prendre garde pour ne pas être infidèle? À son esprit, à son intelligence. Donc, il demande une sainteté de l'esprit pour que la conduite puisse être comme il faut. Si nous voulons être sains dans notre conduite, comme l'apôtre Pierre le demande ici, il faut un changement d'esprit. Et quelqu'un a dit, nous devons être des gens dont la vie a changé parce que leur esprit a changé. Nous devons être des gens dont la vie a changé parce que l'esprit a changé. Quand l'esprit change, la vie change. La vie extérieure est soumise à l'esprit. Toujours, toujours, toujours. Et dans Éphésiens chapitre 4, on n'a pas lu, mais au verset 17, je crois qu'il le dit, hein. Il parle des païens, Éphésiens 4, 17, je vous lis, il dit, voici donc ce que je dis, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent comment? Selon la vanité de leur esprit, de leur pensée, de leur intelligence. Ils ont l'intelligence obscurcie et ils marchent selon leur compréhension des choses, selon leur intelligence. Et donc l'enfant de Dieu doit chercher à la pureté, la sainteté de son esprit s'il veut marcher avec une conduite saine et une conduite pure. Alors, comment cette sainteté, on va terminer avec ça, comment cette sainteté s'opère? Premièrement, on peut voir par la pénétration de la parole de Dieu dans l'esprit. Il faut que l'esprit soit pénétré de la parole de Dieu. Jésus, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4 qu'on a lu ici, il dit, l'homme nouveau est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit qui? Que produit la vérité? Que produit la parole de Dieu? Sans parole de Dieu, il n'y a pas de sainteté d'esprit. Il faut que l'esprit soit imbibé, imprégné de l'enseignement de l'écriture pour que la sainteté se produise dans cet esprit et se transforme en des actes de sainteté. Et c'est pour ça que Jésus, dans sa prière, il dit à son Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Et puis il ajoute un peu plus loin, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Il n'y a pas, et la vérité, ça atteint quoi? La vérité ne touche pas d'abord les mains, les yeux. La vérité touche quoi? L'esprit, l'intelligence. Il faut qu'elle soit entendue, il faut qu'elle soit reçue, il faut qu'on travaille avec et qu'on s'y soumette, qu'on y obéisse, mais il faut la recevoir en premier, n'est-ce pas? Et donc, cette prière de Jésus montre à quel point il est important, à quel point la sanctification passe par la parole de Dieu. D'ailleurs, quand on lit dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, quand Dieu parle de la nouvelle alliance, de ce qu'il va faire, il parle du peuple, Hébreux parle du peuple d'Israël qui n'a pas respecté le contrat de la première alliance. Ils ont désobéi à Dieu. Et donc, la première alliance obsolète, Dieu vient avec une nouvelle alliance. Ce peuple avait quoi? Ils avaient des lois, n'est-ce pas, qu'ils devaient suivre, ils devaient obéir à ces lois, mais ils ont failli dans cela. Et Dieu dit quoi? Quelle est la particularité de la nouvelle alliance? Eh bien, Hébreux 8, 10 dit ceci. Il dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je ferai quoi? Je mettrai mes lois dans leurs mains, devant leurs yeux, dans leur esprit, il dit d'abord, je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est ça la nouvelle alliance. Dieu va implanter sa loi dans l'esprit, dans le cœur, à l'intérieur. Et de l'intérieur, il travaille vers l'extérieur. Et donc, c'est pour ça que la sainteté de l'esprit est quelque chose d'important. Il faut se battre, bien sûr, pour ne pas laisser son esprit se souiller par le monde, mais il faut le faire en mettant la parole de Dieu, la loi de Dieu, constamment dans notre esprit. Constamment dans notre esprit. Donc, première manière pour cette sainteté, pour opérer cette sainteté, eh bien, Dieu le fait par sa parole qu'il fait pénétrer dans le cœur et dans l'intelligence. Et c'est elle qui façonne. Quelqu'un a dit que vivre une véritable vie chrétienne, c'est être éduqué spirituellement, avoir l'esprit éduqué par la parole de Dieu. Si tel n'est pas le cas, on ne peut pas vivre vraiment l'évangile. Et puis, deuxièmement, on peut cette sainteté s'opère aussi par l'application de certains filtres à l'esprit. Ça, on trouve ça dans Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc ici, la deuxième manière, la première manière avec la pénétration de la parole, deuxième manière par l'application de certains filtres, hein, le filtre de la vérité, de la pureté, de la justice, de ce qui est aimable, de ce qui mérite l'approbation, de la vertu et de ce qui est digne de louange. Tout ça doit être l'objet de vos pensées. Ce sont des critères ici qui doivent, ces critères-là qui doivent décider de l'acceptabilité d'une chose ou non. Et pas ce qui est en vogue dans la société. C'est ce qui et qui passe dans ce filtre-là. Ça nous donne la nature de ce qui doit atteindre notre esprit. Et quand on est tenté de regarder, par exemple, quelque chose à la télé ou sous son ordinateur ou son téléphone, parfois, on essaye de se mettre un petit peu de bonne conscience en disant « Oh, c'est juste un reportage que je regarde. » On sait que c'est pas peut-être pas terrible de regarder ça, mais on dit « Mais c'est un reportage, ça me permet de savoir un peu ce qui se passe. Hein. » Un petit peu, c'est pas, je regarde pas ça par affection, mais je regarde ça parce que ça peut m'informer. C'est pas ça qui doit décider si je regarde ou pas. Ce qui doit décider, c'est est-ce que c'est vrai? Et en même temps, est-ce que c'est honorable? Et en même temps, est-ce que c'est juste? Et en même temps, est-ce que c'est pur? Et en même temps, est-ce que c'est aimable? Et en même temps, est-ce que ça mérite l'approbation? Et en même temps, est-ce que c'est vertueux? Et en même temps, est-ce que c'est digne de louange? Vous voyez, c'est pas l'un ou l'autre, hein, parce que quelque chose peut être vrai et pas bon à regarder, pas pur. Quelque chose peut être vrai et pas pur, d'accord? Et il faut donc que ça passe à travers, que ça qu'on coche toutes les cases, comme on dit souvent. Hein, il faut cocher toutes les cases ici. Et quand on utilise ce filtre que Dieu donne, eh bien, on participe à la sainteté de l'esprit. Faut pas laisser n'importe quoi pénétrer notre esprit, parce que ça va forcément avoir des effets. Et on prête à Jonathan Edwards, un théologien américain du 18e siècle, cette phrase, il dit « Les idées et les images dans l'esprit des hommes sont les pouvoirs invisibles qui les régit constamment. Les idées et les images, dit même. Quand on a pris l'habitude de regarder de mauvaises images, ça a un effet à long terme dans la vie. Et il dit, les idées qu'on a pris l'habitude d'épouser, d'adopter, d'écouter, de recevoir, ça a aussi un effet dans la vie. Et donc c'est pour cela qu'il faut écouter la parole de Dieu pour avoir la pensée de Dieu, regarder les choses qui concernent Dieu pour avoir la pensée de Dieu, afin que la vie soit régie, le comportement soit régi par ces choses-là. Il dit, ce sont des pouvoirs invisibles, on ne les voit pas, mais ils agissent avec un grand pouvoir. Et puis dernier point que je souligne, dernière manière pour cette sainteté de l'esprit, eh bien, il faut être vigilant sur les portes d'entrée de notre esprit. Il faut être vigilant sur les portes d'entrée de l'esprit. Vous vous rappelez, on avait lu le livre « La guerre sainte » de John Bunyan. Vous vous rappelez ce livre qu'on avait lu il y a quelque temps. Et il montre comment il est important de mettre des gardes aux portes de la ville qu'on appelait âme humaine. Hein, pas si vous vous rappelez de ça. Et il dit « Cette ville célèbre de l'âme avait 5 portes par lesquelles on pouvait entrer ou sortir. Mais elles étaient construites de la même façon que les murs, c'est-à-dire qu'on ne pouvait les forcer et que pour les ouvrir, il fallait le bon vouloir ou l'autorisation des habitants. » Quelque part, il est en train de dire que ce sont des portes d'entrée, il y a des portes d'entrée dans l'esprit, mais personne ne peut les forcer. Et quand les choses entrent, c'est ceux qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire nous-mêmes, qui les laissons entrer ou pas. Et donc, il continue, John Bunyan, dans son allégorie, il dit, donc il fallait le bon vouloir de l'autorisation des habitants, il dit, voici les noms de ces portes. La porte de l'oreille, la porte de l'œil, la porte de la bouche, celle du nez et celle du toucher. Vous voyez ici? Donc, nul ne peut forcer l'accès à nos pensées ou à notre esprit. Et il faut une autorisation de notre part. Et c'est pour cela que le mensonge est toujours présenté comme une vérité. D'accord? C'est pour nous permettre de l'accepter. Sinon, on refuse. Personne ne croit quelque chose disant, je sais que c'est un mensonge, mais j'y crois dur comme fer. Ça n'existe pas. Les gens croient que le mensonge est une vérité. Ils le prennent pour une vérité et ils l'acceptent. D'accord? Mais quelqu'un ne dit pas en général, j'ai jamais trouvé en tout cas quelqu'un qui dit, je sais que ça c'est complètement faux, mais je base ma vie là-dessus. Je sais qu'un avion sans aile, ça peut pas voler. Je sais, accepte, mais je monte là-dedans quand même. Parce que j'y crois. Non, ça n'existe pas. Hein. Pour faire quelque chose, il faut que l'on croie que le mensonge est une vérité. Et c'est exactement ce que Satan a fait avec Ève. Il a fait croire que sa présentation des choses était la vérité et que c'est Dieu qui mentait. Et Ève a accepté. Il a fallu qu'il transforme les choses pour qu'elle puisse l'accepter. Elle, il ne pouvait pas la forcer à accepter ça dans son esprit. Elle a dû l'accepter. Et ça se passe toujours ainsi. Donc je termine en disant ceci, chers frères et sœurs. La parole de Dieu est l'influence sous laquelle je dois constamment me placer. Les vertus que Paul donne ici, hein, quand il parle de ce qui est vrai, ce qui est honorable et tout cela, sont des choses qui proviennent de la parole de Dieu. Et donc, les vérités de l'Écriture doivent toujours façonner notre pensée. Constamment. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible régulièrement, qu'il faut s'exposer à l'enseignement de la parole régulièrement, qu'il faut méditer régulièrement. Et bien sûr, avec tout cela, il faut prier. Le psalmiste disait, comment le jeune homme rendra-t-il pur ou rendra-t-il saint son sentier? En faisant quoi? En se dirigeant d'après ta parole. Il n'y a pas un autre moyen pour, même pour notre esprit, pour avoir cette sanctification, cette sainteté de l'esprit. Et la sainteté de l'esprit est indispensable. Je répète ce que Pierre dit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois lorsque vous étiez encore dans le monde, mais il dit, mais soyez saints, de même que Christ, celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Et pour être saint dans toute sa conduite, il faut être saint dans son esprit. Donc que le Seigneur nous aide dans cela. Prions. Seigneur,